L'actu philo, Claire Bressolette.
Bonjour Nathan, bonjour chers auditeurs. La violence est-elle nécessaire? Inévitablement, pour la guerre, puisqu'elle la fonde. Mais le bombardement de Kiev hier, jeudi 28 avril, pendant la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, invite à penser qu'elle est pour Poutine un langage, comme l'est la parole en diplomatie internationale. La violence devenue langage se trouve dès lors dépendante du pouvoir. Elle n'est donc plus nécessaire puisqu'elle est un choix. Selon Hannah Arendt, dans une confrontation où la violence seule s'oppose à la violence, le gouvernement a toujours bénéficié d'une supériorité absolue. Mais cette supériorité n'existe que pour autant que la structure du pouvoir gouvernemental demeure intacte, c'est-à-dire aussi longtemps que l'on obéit aux ordres et que l'armée ou les forces de la police sont prêtes à faire usage de leurs armes. Quand ce n'est plus le cas, la situation se renverse brusquement. Non seulement la rébellion n'est plus réprimée, mais les armes changent de main, parfois, comme dans le cas de la révolution hongroise, en l'espace de quelques heures, je rappelle, printemps de Prague, 1956. C'est seulement après de tels événements, quand la désintégration du pouvoir gouvernemental permet aux rebelles de s'armer, que l'on peut parler de soulèvement armé. Fréquemment, celui-ci ne se produit pas du tout ou survient lorsqu'il n'est plus nécessaire. Les moyens de la violence deviennent inutiles quand on n'obéit plus aux ordres. Et le facteur décisif n'est plus alors qu'une question d'obéissance au commandement. Celle du nombre plus ou moins grand de ceux qui sont du même avis. Tout dépend donc du pouvoir que la violence parvient à rassembler. Ces réflexions donc sur le régime totalitaire nous permettent d'éclairer davantage la question de la guerre. Parce que la thèse de Hannah Arendt est qu'on ne fait pas de révolution grâce à l'emploi de la violence, que le terrorisme n'est pas l'instrument des révolutions, mais qu'une révolution l'emporte lorsque le gouvernement en place a perdu tout pouvoir effectif et que le pouvoir se trouve dans la rue. Le pouvoir précède la violence et fait son succès. Le pouvoir, cependant, ne suffit pas. Il faut une organisation et une capacité d'utiliser la violence. C'est ainsi qu'une révolution soutenue peut l'emporter contre un gouvernement qui n'a plus de soutien. Il n'y a jamais eu de gouvernement qui soit exclusivement fondé sur l'emploi des moyens de la violence. Même le chef d'un régime totalitaire, dont la torture est le premier instrument de gouvernement, a besoin, pour son pouvoir, d'une base, à savoir la police secrète et son réseau d'indicateurs. Le genre de domination le plus despotique que l'on ait pu concevoir, celui des maîtres sur leurs esclaves, qui furent toujours très supérieurs en nombre, ne reposait pas lui-même sur des moyens de contrainte particulièrement puissants, mais sur la supériorité de l'organisation du pouvoir, c'est-à-dire sur la solidarité organisée des maîtres. Les hommes isolés, qui ne peuvent avoir recours à l'appui de leurs semblables, n'ont jamais disposé d'un pouvoir suffisant pour se servir avec succès de la violence. Le pouvoir, mais non la violence, est l'élément essentiel de tout gouvernement. Si le pouvoir s'exerce et se constitue, hors de la distinction entre dominant et dominé, voire contre cette distinction, toute domination repose sur un pouvoir, celui de ceux qui s'allient et s'organisent pour dominer. La domination par la violence n'est pas de l'ordre de la nécessité, parce que son exercice ne repose pas sur une force naturelle, mais sur une capacité d'organisation qui est proprement politique. C'est donc un rapport de force contingent qui repose sur des alliances. L'exercice de la violence fait partie d'une construction politique. Ce n'est pas la libération d'un élan naturel. Ni la violence, ni le pouvoir ne sont des phénomènes naturels, c'est-à-dire des manifestations d'un processus vital. L'un et l'autre font partie du domaine politique des affaires humaines, dont la qualité spécifiquement humaine est garantie par la capacité d'action de l'homme, par son aptitude à l'initiative d'une action nouvelle. Parce qu'elle n'est pas un processus naturel, la violence non seulement peut être contrée, mais aussi elle peut introduire du nouveau dans le champ historique et politique. C'est bien cela que ne doit pas oublier l'ONU dont la force réside dans le pouvoir de l'alliance de plusieurs nations qui ont approuvé par la force du droit, de la parole et de la capacité de l'Occident à se priver des biens russes, que la violence, n'étant pas une nécessité, est un langage inefficace. Bon week-end.